Chapitre 36. Le matin, lorsque Marianne sortit de sa chambre, elle vit Nejdanov habillé et assis sur le divan. Il appuyait sa tête sur une main. L'autre main, immobile et inerte, gisait sur ses genoux. Elle s'approcha de lui. « Bonjour, Alexis. Tu ne t'es pas déshabillé? Tu n'as pas dormi? Comme tu es pâle !» Les paupières alourdies des yeux de Nejdanov se relevèrent lentement. « Je ne me suis pas déshabillé, je n'ai pas dormi. Es-tu malade, ou bien est-ce encore la suite d'hier ?» Nejdanov secoua la tête. « Je n'ai plus dormi depuis le moment où Solomine est entrée dans ta chambre. »«
Quand cela ?»«
Hier soir. »«
Alexis, tu es jaloux ? Voilà une idée. Tu prends bien ton temps. Il est resté chez moi un quart d'heure à peine. »
Nous avons parlé de son cousin, le prêtre, et des moyens d'arranger notre mariage. Je sais qu'il n'est resté qu'un quart d'heure. Je l'ai vu sortir. Et je ne suis pas jaloux, oh non. Mais depuis ce moment-là, je n'ai pas pu m'endormir.
Pourquoi donc ?
Nejdanov garda le silence. J'ai pensé, dit-il enfin.
À quoi ?
À toi, à lui et à moi-même.
Et à quoi en es-tu arrivé ?
Faut-il te le dire, Marianne ?
Parle, je t'en prie.
J'ai pensé que je suis en embarras pour toi, pour lui et pour moi-même.
Pour moi, pour lui ?
Je devine ce que tu veux dire par là, quoique tu prétendes que tu n'es pas jaloux.
Mais pour toi-même ?
Marianne, j'ai en moi deux hommes, dont l'un empêche l'autre de vivre. C'est pourquoi je me dis que tous les deux feraient mieux d'en finir.
Allons, allons, Alexis, je t'en prie. Quelle idée de te tourmenter ainsi,
et moi avec toi. Ce que nous avons à faire pour le moment, c'est de chercher les mesures à prendre. Tu penses bien qu'on ne va pas nous laisser tranquilles. Nejdanov s'empara doucement de son bras. Assieds-toi près de moi, Marianne, et causons un peu, comme des amis, pendant que nous en avons le temps. Donne-moi ta main. Il me semble que nous ferions bien de nous expliquer, quoique l'on prétende que toutes les explications ne font qu'embrouiller les questions. Mais tu es intelligente et bonne, tu comprendras tout, et tu devineras ce que je n'aurais pas bien expliqué. Assieds-toi. La voix de Nejdanov était très calme, et dans ses yeux, dont le regard ne quittait pas Marianne, se lisait une singulière expression de tendresse amicale et de prière. Marianne s'assit aussitôt à côté de lui, de bon cœur, et lui prit la main. « Merci, cher ami. Écoute, je ne te tiendrai pas longtemps. J'ai déjà préparé dans ma tête cette nuit ce que je dois te dire. Écoute, ne pense pas que j'ai été trop troublé par ce qui m'est arrivé hier. Il est probable que je devais exciter le rire et même un peu le dégoût. Mais toi, cela va sans dire, tu n'as pensé à mon sujet rien de mauvais ni de bas. Tu me connais. Je viens de te dire que ce qui m'est arrivé hier ne m'avait pas troublé. Ce n'est pas exact. C'est faux. J'en ai été fort troublé. Non pas parce qu'on m'a ramené ivre, mais parce que j'y ai trouvé la preuve complète, absolue, de ma banqueroute, de mon impuissance. Et il ne s'agit pas seulement de l'impossibilité où je suis de boire comme nos paysans russes. Il s'agit de mon caractère même dans son ensemble. Marianne, je suis obligé de te l'avouer, je ne crois plus à l'œuvre qui nous a réunis, à l'œuvre qui a fait que nous nous sommes enfuis ensemble, et pour laquelle, je dois te le dire, j'étais déjà refroidi lorsque ta flamme m'a réchauffé et rallumé. Je ne crois plus, je ne crois plus. Il mit sur ses yeux sa main libre et se tut un moment. Marianne aussi garda le silence. Elle baissa la tête. Elle sentait qu'il ne lui apprenait rien de nouveau. « Je m'étais imaginé d'abord, » reprit Nejdanov en ouvrant ses yeux, mais cette fois sans regarder la jeune fille, « que je croyais à l'œuvre elle-même et que je doutais seulement de moi, de mes forces, de mon savoir-faire. Mes aptitudes, pensais-je, ne répondent pas à mes convictions. Mais il est clair que ces deux choses sont inséparables. Et puis, à quoi bon chercher à me tromper ? Non, c'est à l'œuvre même que je ne crois plus. Et toi, y crois-tu, Marianne ? Marianne se redressa de tout son haut et releva la tête. « Oui, Alexis, dit-elle, j'y crois. J'y crois de toutes les forces de mon âme, et je consacrerai à cette œuvre ma vie entière jusqu'au dernier soupir. » Nejdanov se tourna vers elle et l'enveloppa d'un regard à la fois attendri et envieux. « Oui, oui, c'est la réponse que j'attendais. Tu vois bien à présent que nous n'avons rien à faire ensemble. C'est toi-même qui, d'un seul coup, viens de rompre notre lien. » Marianne resta muette. « Tiens, Solomine, par exemple, » reprit Nejdanov, « Solomine ne croit pas. Comment ? Non, il ne croit pas non plus, mais il n'a pas besoin de cela. Il va tranquillement en avant. L'homme qui suit un chemin pour aller à la ville ne se demande pas si cette ville existe réellement. Il marche et voilà tout. Ainsi fait Solomine, et il ne faut rien de plus. Moi, je ne peux pas aller en avant. Je ne peux pas, je ne veux pas retourner en arrière, et rester en place me tue. À qui donc oserais-je demander d'être mon compagnon ? Tu connais le proverbe, prenez le fardeau chacun par un bout, et tout ira bien. Mais si l'un des deux manque de force pour porter le fardeau, que fera l'autre ? Alexis, dit Marianne d'un air hésitant, il me semble que tu exagères. En somme, nous nous aimons. Nejdanov soupira profondément. Marianne, je m'incline devant toi et tu me plains. Et chacun de nous est convaincu de l'honnêteté de l'autre. Voilà la vérité vraie. Quant à de l'amour, il n'y en a pas entre nous. Allons donc, Alexis, qu'est-ce que tu dis là ? Oublies-tu qu'aujourd'hui, tout à l'heure, la poursuite va commencer, et que nous devrons nous enfuir ensemble, et ne plus nous séparer ? Oui, et aller chez le prêtre Zosim pour qu'il nous marie, comme nous l'a proposé Solomine. Je sais bien que ce mariage n'est à tes yeux qu'un passeport, qu'un moyen d'éviter les ennuis dont nous menace la police. Mais enfin, jusqu'à un certain point, il nous obligerait à la vie en commun, côte à côte, ou, s'il ne nous y obligeait pas, au moins supposerait-il le désir de vivre ensemble. Que veux-tu dire, Alexis ? Tu restes donc ici ? Nejdanov retint un « oui » qui était sur ses lèvres, mais il réfléchit et répondit « non ». Alors tu ne vas pas du même côté que moi en partant d'ici. Nejdanov serra fortement la main qu'elle avait laissée dans la sienne. Te laisser sans protecteur, sans défenseur serait un crime. Et je ne ferai pas cela, si faible que je sois. Tu auras un défenseur, n'en doute pas. Marianne se pencha vers Nejdanov et le regarda en plein visage, avec sollicitude, avec anxiété, s'efforçant de lire dans ses yeux, dans son âme, au fond de son âme. « Qu'est-ce qui te prend, Alexis ? Tu as quelque chose sur le cœur. Dis-le-moi. Tu m'inquiètes. Tes paroles sont si énigmatiques, si étranges. Et quelle figure tu as ! Je ne t'ai jamais vu ainsi. » Nejdanov la repoussa doucement et lui baisa doucement la main. Cette fois, elle ne résista pas, elle ne rit pas, elle continua à le regarder d'un air anxieux. « Ne t'inquiète pas, je t'en prie, il n'y a là rien d'étrange. » Voici en quoi consiste tout le mal. Markelov, m'a-t-on dit, a été battu par les paysans. Il a goûté de leurs poings, et ils lui ont meurtri les côtes. Moi, ils ne m'ont pas battu. Ils ont même bu avec moi à ma santé. Mais ils m'ont meurtri l'âme, mieux encore que les côtes de Markelov. J'étais né disloqué. J'ai essayé de me remettre, et je n'ai fait que me disloquer davantage. Voilà, au juste, ce que tu vois sur mon visage. Alexis, lui dit-elle lentement, ce serait bien mal si tu n'étais pas sincère avec moi. Il se tordit les doigts avec force. Marianne, tout mon être est sous tes yeux, à découvert comme sur la paume de la main. Et quoi que je fasse, je te le dis d'avance, au fond, il n'y aura rien, absolument rien, qui pourra t'étonner. Marianne eut envie de lui demander l'explication de ses paroles, mais elle ne le fit pas, d'autant plus qu'en ce moment, Solomine entrait dans la chambre. Ses mouvements étaient plus rapides et plus brusques que de coutume. Il battait les paupières, ses larges lèvres étaient contractées, tout son visage semblait aminci et avait pris une expression sèche, dure, presque impérieuse. « Ami, dit-il, je viens vous avertir qu'il n'y a pas de temps à perdre. Préparez-vous, voilà le moment de partir. » Il faut que vous soyez prêt dans une heure. Il faut que vous alliez vous marier. Nous sommes sans nouvelles de Pakline. On avait d'abord retenu ses chevaux à Argenoyer, et puis on les a renvoyés. Il est resté là-bas. Probablement, on l'a conduit en ville. Il ne vous dénoncera pas, cela va sans dire, mais qui sait, il est capable d'avoir la langue trop longue. Et puis, on peut reconnaître ses chevaux. Mon cousin est averti. Paul vous accompagnera. Il vous servira aussi de témoin. Et vous? Et toi? Lui demanda Nejdanov. Tu ne pars donc pas? Je vois que tu es en costume de voyage, ajouta-t-il en indiquant du regard les grandes bottes de marais que Solomine avait aux pieds. Non, non, c'est à cause de la boue. Mais si on allait te faire payer pour nous? Je ne crois pas. En tout cas, ce serait mon affaire. Donc, dans une heure. Marianne, Tatiana désire vous voir. Elle a préparé quelque chose pour vous. Ah oui, justement, je voulais aller la trouver. Marianne se dirigea vers la porte. Sur le visage de Nejdanov se montra tout à coup une expression étrange mêlée d'effroi et d'angoisse. « Marianne, tu t'en vas ? » dit-il d'une voix subitement éteinte. Elle s'arrêta. « Je serai ici dans une demi-heure. Il me faut peu de temps pour me préparer. » « Oui, mais viens ici. »«
Je veux bien. »«
Pourquoi ?»« Je veux te regarder encore une fois. » Il la regarda longuement. « Adieu, adieu, Marianne. » Elle parut surprise. « Tu te demandes ce qui me prend. Ce n'est rien. Ne fais pas attention. Tu reviens dans une demi-heure, n'est-ce pas ?»«
Oui,
sans doute. »« Oui, oui, pardon. Ma tête est toute troublée par l'insomnie à cause de cette nuit blanche. » Moi aussi je serai prêt tout à l'heure. Marianne sortit. Solomine voulait la suivre. Nejdanov l'arrêta.
Solomine.
Quoi?
Donne-moi ta main.
Il faut bien que je te remercie de ton hospitalité. Solomine sourit à peine.
Voilà une idée.
Pourtant, il lui donna la main. Et puis, écoute, continua Nejdanov, s'il m'arrivait quelque chose, je puis compter sur toi. Je peux être sûr que tu n'abandonneras pas Marianne.
Ta future femme?
Oui, Marianne. D'abord, je suis persuadé qu'il ne t'arrivera rien du tout. Et tu peux être tranquille. Marianne m'est aussi chère qu'à toi-même.
Oh, je le sais, je le sais.
Allons, très bien, et merci. Donc, dans une heure?
Dans une heure.
Je serai prêt, adieu. Solomine sortit et rattrapa Marianne dans l'escalier. Il avait l'intention de lui dire quelque chose au sujet de Nejdanov, mais il ne dit rien, et Marianne, de son côté, comprit que Solomine avait eu l'intention de lui dire quelque chose précisément au sujet de Nejdanov et qu'il n'avait rien dit. Et elle ne dit rien non plus. Chapitre 37. À peine Solomine fut-il sorti que Nejdanov s'élança de son divan. Il fit deux fois le tour de la chambre, puis s'arrêta au milieu pendant une minute, comme dans une rêverie pétrifiée. Puis il se secoua tout à coup et se débarrassa vivement de son costume de mascarade qu'il poussa du pied dans un coin. Il alla chercher et remit ses anciens habits. Puis il s'approcha de la table à trois pieds et prit dans le tiroir deux enveloppes cachetées et un petit objet qu'il glissa dans sa poche. Les enveloppes restèrent sur la table. Il se baissa ensuite jusqu'à la porte du poêle qu'il ouvrit. Le poêle contenait un monceau de cendres. C'était tout ce qui restait des papiers de Nejdanov et du cahier secret de poésie. Il avait brûlé tout cela pendant la nuit. Mais dans ce même poêle, appuyé contre une des parois, se trouvait le portrait de Marianne, cadeau de Markelov. Évidemment, Nejdanov n'avait pas eu le courage de brûler ce portrait avec le reste. Il le retira soigneusement et le mit sur la table à côté des papiers cachetés. Puis, d'un mouvement énergique, il saisit sa casquette et se dirigea vers la porte. Mais il s'arrêta, revint en arrière et entra dans la chambre de Marianne. Après être resté une minute debout, immobile, il jeta un regard tout autour de lui et, s'approchant de l'étroite couchette de la jeune fille, il posa ses lèvres, avec un sanglot unique et muet, non sur le chevet, mais sur le pied du lit. Puis il se redressa tout d'une pièce, enfonça sa casquette sur son front et se précipita dehors. Sans rencontrer personne, ni dans le corridor, ni dans l'escalier, ni en bas, il se glissa dans le petit enclos. Le jour était gris, le ciel pendait bas, près de terre. un petit vent humide agitait les pointes des brins d'herbe et balançait les feuilles des arbres. La fabrique faisait moins de bruit que d'habitude à cette même heure. Une odeur de charbon de terre, de goudron et de suif venait de la cour. Nejdanov jeta tout autour de lui un coup d'œil scrutateur et méfiant, puis il marcha droit à ce vieux pommier qui avait attiré son attention le jour même de son arrivée, lorsqu'il avait regardé pour la première fois par la fenêtre de sa chambre. Le tronc de ce pommier était couvert de mousse desséchée. Ses branches, rugueuses et dénudées, avec quelques petites feuilles vertes et rouges accrochées çà et là, s'élevaient tordues vers le ciel, semblables à des bras de vieillards suppliants, les coudes repliés. Nejdanov se plaça de pied ferme sur la terre noire qui entourait le pied du pommier et tira de sa poche le petit objet qu'il avait pris dans le tiroir de sa table. Puis il regarda attentivement les fenêtres de la maisonnette. « Si quelqu'un me voit en ce moment, pensa-t-il, peut-être que je remettrai. » Mais nulle part ne se montra un visage humain. Tout semblait mort, tout se détournait de lui, s'éloignant pour toujours, le laissant seul à la merci du destin. Seule la fabrique lui envoyait sa puanteur et son vacarme stupide, et une petite pluie froide commençait à tomber en gouttelettes fines et très aiguës. Alors Nejdanov, à travers les branches tordues de l'arbre sous lequel il se trouvait, regarda le ciel gris, bas, mouillé, indifférent, aveugle. Il bâilla, s'étira, se dit « Après tout, il n'y a que cela à faire. Je ne puis retourner à Pétersbourg, à la prison. » Il jeta loin de lui sa casquette, et ayant ressenti d'avance dans tout son corps comme une tension forte, angoissante et douceâtre, il mit la bouche du revolver contre sa poitrine et pressa la gâchette. Il éprouva un choc, pas très fort, et le voilà déjà couché sur le dos. Et il tâche de comprendre ce qui lui est arrivé et comment il se fait qu'il vienne voir Tatiana. Il veut même l'appeler, dire « Ah, ce n'est pas nécessaire !» Mais déjà il est tout raide et muet. Un tourbillon de fumée verdâtre passe dans ses yeux, sur son visage, sur son front, dans son cerveau, et un poids horrible l'aplatit pour toujours contre la terre. Ce n'était pas sans raison que Nejdanov avait cru voir Tatiana. À l'instant même où il lâchait la détente, elle s'approchait d'une des fenêtres de la maisonnette et l'apercevait sous le pommier. Elle n'avait pas eu le temps de se dire « Que fait-il là sous ce pommier, nu-tête par un temps pareil ?» quand déjà elle le vit tomber à la renverse, raide et lourd comme une gerbe. Bien qu'elle n'eût pas entendu le bruit, très faible, de la décharge, elle sentit aussitôt qu'il se passait quelque chose de mauvais et se précipita vers l'enclos. Elle courut à Nejdanov. « Alexis Dmitritch, qu'avez-vous ? » Mais l'obscurité s'était déjà emparée de son être. Elle se pencha sur lui et vit du sang. « Paul ! » s'écria-t-elle d'une voix qui n'était plus la sienne. « Paul !» Quelques instants après, Marianne, Solomine, Paul et deux ouvriers de la fabrique étaient dans l'enclos. Nejdanov fut aussitôt soulevé, porté dans sa chambre et posé sur le divan où il avait passé la dernière nuit. Il était couché sur le dos, ses yeux à demi ouverts restaient immobiles, son visage était bleuâtre. Il râlait longuement et avec effort, en s'étranglant comme un enfant qui vient de pleurer. La vie ne l'avait pas encore abandonné. Marianne et Solomine, debout à droite et à gauche du divan, étaient presque aussi pâles que Nejdanov lui-même. Ils étaient frappés, terrassés, anéantis tous deux, surtout Marianne, mais non surpris. « Comment n'avons-nous pas prévu cela » pensait-il, et en même temps il leur semblait, oui, il leur semblait en effet qu'il l'avait prévu. Quand il avait dit à Marianne « Quoi que je fasse, je te le dis d'avance, tu n'en seras pas étonné. » Et encore, quand il avait parlé de ces deux âmes qui existaient en lui et qui ne pouvaient pas vivre ensemble, un vague pressentiment ne s'était-il pas éveillé en elle ? Pourquoi, en ce moment-là, ne s'y était-elle pas arrêtée? Pourquoi n'avait-elle pas réfléchi à ses paroles et à ce pressentiment? Et pourquoi maintenant n'osait-elle regarder Solomine comme s'il était son complice et comme s'il lui aussi ressentait les mêmes remords de conscience? Pourquoi, au sentiment de pitié infinie, de regret désespéré que lui inspirait Nejdanov, venait-il se joindre une sorte de terreur, de honte. Peut-être avait-il dépendu d'elle de le sauver. Pourquoi n'ont-ils ni l'un ni l'autre le courage de prononcer une parole? À peine osent-ils respirer. Ils attendent. Qu'attendent-ils, grand Dieu? Solomine avait envoyé chercher un docteur, quoiqu'il n'y eût évidemment aucun espoir. Tatiana avait mis une grosse éponge imbibée d'eau fraîche sur la blessure, petite, exsangue et déjà noire, de Nejdanov. Elle mouilla aussi ses cheveux avec de l'eau fraîche mêlée de vinaigre. Tout à coup, Nejdanov cessa de râler et fit un mouvement. « Il revient à lui, » murmura Solomine. Marianne se mit à genoux près du divan. Nejdanov la regarda. Jusqu'à ce moment-là, ses yeux étaient restés immobiles comme ceux des mourants. « Ah, je vis encore, » dit-il d'une voix à peine perceptible. « Maladroit, cette fois encore. Je vous retiens. »« Alexis !» s'écria Marianne. « Mais tout de suite, tu te rappelles, Marianne, dans ma poésie, environne-moi de fleurs. Où sont-elles, les fleurs? Mais tu es là, toi. Ma lettre. » Un frisson l'a pris de la tête aux pieds. « Oh, la voilà. Donnez-vous la main l'un à l'autre, devant moi. Vite, donnez. » Solomine saisit la main de Marianne, qui avait enfoui sa tête dans le divan, la figure tout près de la blessure. Quant à Solomine, il était debout, sévère, sombre comme la nuit. « Comme ça, bien, comme ça. » Nejdanov se reprit à s'étrangler, mais cette fois d'une façon tout étrange. Sa poitrine se souleva, ses flancs rentrèrent, il faisait d'évidents efforts pour poser sa main sur leurs deux mains réunies, mais les siennes étaient déjà mortes. « Il s'en va, » murmura Tatiana, debout près de la porte. Et elle se mit à faire des signes de croix. Les hoquets devenaient plus rares, plus courts. Il chercha encore Marianne du regard, mais une terrible blancheur laiteuse venue du dedans voilait déjà ses yeux. « Bien, » dit-il, ce fut son dernier mot. Il n'existait plus, et les mains de Solomine et de Marianne étaient encore unies sur sa poitrine. Voici ce que contenaient les deux lettres qu'il avait laissées. La première, adressée à Céline, se composait de ces quelques lignes. « Adieu, mon frère, mon ami, adieu. Quand tu recevras ce morceau de papier, je n'existerai plus. Ne demande pas comment, pourquoi, et ne me plains pas. Sois assuré que je suis mieux ainsi. Prends notre immortel Pushkin et relis dans Eugène Onegin la description de la mort de Lenski. Tu te rappelles? Les fenêtres sont blanchies à la craie. L'hôtesse est absente, etc. Rien de plus. Je ne te dirai rien, parce que j'en aurai trop long à te dire. Et le temps me manque. Mais je ne voulais pas m'en aller sans t'avertir, car tu aurais pu me croire vivant, et c'eût été de ma part un péché envers notre amitié. Adieu, tâche de vivre. Ton ami A. N. » L'autre lettre, un peu plus longue, était adressée à Solomine et à Marianne ensemble. Voici quelle en était la teneur. « Mes chers enfants, » à la suite de ces deux mots, il y avait une interruption, quelque chose était raturé ou plutôt effacé, comme par des larmes. « Il vous semblera étrange, peut-être, que je vous appelle ainsi. Je suis presque un enfant, et toi, Solomine, je le sais bien, tu es plus vieux que moi. Mais je vais mourir, et, à la limite de la vie, je me fais l'effet d'un vieillard. Je suis très coupable envers vous deux, surtout envers toi, Marianne, car je vous cause beaucoup de chagrin, et tu en auras, Marianne, je le sais, et beaucoup de dérangements. Mais qu'aurais-je pu faire? Je n'ai pas trouvé d'autre issue. Je n'ai pas su me simplifier, il ne me restait plus qu'à me biffer tout à fait. Marianne, j'aurais été un fardeau et pour toi et pour moi. Tu es généreuse, tu aurais peut-être accepté avec joie ce fardeau comme un nouveau sacrifice, mais je n'avais pas le droit de te l'imposer. Tu as mieux et davantage à faire. Mes chers enfants, laissez-moi vous unir l'un à l'autre d'une main qui vient, pour ainsi dire, de par-delà la tombe. vous serez bien ensemble. Marianne, tu finiras par aimer tout à fait Solomine, et lui, il t'a aimé du jour où il t'a vu chez les Sipiaguines. Cela n'a jamais été un secret pour moi, bien que nous nous soyons enfuis ensemble quelques jours après. Ah, ce matin-là, comme il était beau et frais et jeune! Il m'apparaît à présent comme le symbole de votre double vie, de la tienne et de la sienne. Et c'est uniquement par hasard que je me suis trouvé à sa place ce matin-là. Mais il faut finir. Je n'ai pas l'intention de t'apitoyer, je veux seulement me disculper. Demain, il y aura quelques moments bien durs à passer. Mais que faire, puisqu'il n'y a pas d'autre issue? Adieu, Marianne, ma chère et honnête enfant. Adieu, Solomine, je te la confie. Vivez heureux, vivez avec profit pour les autres. Et toi, Marianne, ne te souviens de moi que quand tu seras heureuse. Pense à moi comme à un homme honnête et bon aussi, mais à qui il seyait mieux de mourir que de vivre. T'ai-je aimé d'amour? Je n'en sais rien, mon ami, mais je sais que jamais je n'ai éprouvé un sentiment plus fort, et que la mort me paraîtrait encore plus terrible si je n'emportais pas dans la tombe un sentiment comme celui-là. Marianne, si tu rencontres quelque part une personne nommée Machourina, Solomine la connaît, et du reste toi aussi tu l'as vue, je crois, dis-lui que j'ai pensé à elle avec reconnaissance peu de temps avant ma fin. Elle saura ce que je veux dire. Il faut pourtant que je m'arrache à ses adieux. Je viens de regarder par la fenêtre, une belle étoile brillait immobile à travers les nuages qui couraient rapidement. Mais si vite qu'ils courussent, ils ne parvenaient pas à la cacher. Cette étoile m'a fait penser à toi, Marianne. En ce moment, tu dors dans la chambre voisine, et tu ne te doutes de rien. Je me suis approché de la porte, j'ai tendu l'oreille, et il m'a semblé entendre ta respiration tranquille. Adieu, adieu, adieu mes enfants, mes amis. Votre A. Tiens, voilà que dans cette lettre, écrite au moment où je vais mourir, je n'ai pas dit un seul mot de notre grande œuvre. C'est sans doute parce qu'au moment de la mort, on n'a pas à mentir. Marianne, pardonne-moi ce post-scriptum. Le mensonge était en moi et non dans l'œuvre à laquelle tu crois. Ah, encore un mot. Tu penseras peut-être, Marianne, que j'ai eu peur de la prison, car on m'y aurait envoyé nécessairement, et que j'ai pris ce moyen pour l'éviter. Non, la prison n'est pas une si grosse affaire, mais être en prison pour une œuvre à laquelle on ne croit pas, ce serait trop absurde. Si j'en finis avec moi, ce n'est pas par crainte de la prison. Adieu, Marianne, adieu. Marianne et Solomine, l'un après l'autre, lurent cette lettre. Puis elle mit dans sa poche les deux lettres et le portrait, et resta immobile. Alors Solomine lui dit, « Tout est prêt, Marianne, partons. Il faut remplir sa volonté. » Marianne s'approcha de Nejdanov, posa ses lèvres sur son front déjà refroidi, et, se tournant vers Solomine, lui dit, « Partons. » Il lui prit le bras, et tous deux sortirent de la chambre. Quelques heures après, quand la police pénétra dans la fabrique, elle trouva Nejdanov, il est vrai, mais mort. Tatiana l'avait soigneusement arrangé sur son lit. Elle avait mis sous sa tête un oreiller blanc, elle lui avait croisé les mains, elle avait même placé un bouquet de fleurs sur un guéridon tout près de lui. Paul, qui avait reçu toutes les instructions nécessaires, fit aux gens de police l'accueil le plus respectueux et le plus railleur en même temps, de sorte qu'ils se demandèrent s'il fallait lui adresser des remerciements ou le faire arrêter. Il leur raconta tous les détails du suicide. Il leur fit manger du fromage de gruyère et boire du madère. Mais quand on lui demanda où se trouvaient Solomine et la jeune fille qui était venue demeurer à la fabrique, il déclara être dans la plus complète ignorance là-dessus. Il se borna à leur assurer que Solomine ne restait jamais longtemps absent à cause de la besogne, qu'il allait revenir le jour même ou le lendemain, et qu'aussitôt, sans perdre une seule minute, il en donnerait connaissance en ville. Il pouvait en être sûr, car c'était un homme ponctuel. De la sorte, messieurs les agents s'en retournèrent les mains vides, après avoir laissé des gardiens auprès du corps, avec la promesse d'envoyer le juge d'instruction.